d'une organisation politique respectée aujourd'hui par les Palestiniens, représentative d'une partie importante de la population palestinienne. Et nous avons aujourd'hui enfin des politiciens comme Yossi Sarit, qui ne sont pas des radicaux d'extrême gauche, loin de là, qui n'arrêtent pas de dire à l'opinion publique israélienne et aux dirigeants, mais sans illusion, on ne pourra pas faire l'économie de négociation avec le Hamas. Tôt ou tard, alors autant le faire aujourd'hui que le faire après que de nouveau du sang coule ici et là.
D'ailleurs, avec qui négocier, avec qui faire la paix, sinon avec nos ennemis, hein. C'est pas moi qui ai inventé la formule. Juste quelque chose de, avant qu'on passe la parole à la salle, car ma présence ici n'aurait pas de sens si je ne disais pas ça. En 1948, quand l'État d'Israël a été fondé, j'avais 11 ans. En 2011, je vais donc vers mes 74 ans, et pendant toute cette période-là, des guerres fratricides entre Israël, entre les Juifs d'Israël et les Arabes palestiniens, ou les Arabes d'Israël même, donc des guerres fratricides. Quand est-ce qu'on ira vers... suivant la formule consacrée, une paix juste et durable, une fraternité, un vivre ensemble, Kahayush, comme vous dites, quand est-ce qu'on ira vers cela?
Alors, je disais au journaliste qui m'interviewait tout à l'heure, que dans le Talmud, parce qu'il posait aussi une question, quand est-ce que, je dis que dans le Talmud, on dit que depuis la destruction du Temple, il y a un peu plus de 2000 ans, la prophétie a été donnée aux enfants et aux dingues, aux rangées. Comme je suis malheureusement plus un enfant, et heureusement pas trop les rangées, je ne fais pas de prophétie. Je ne veux pas tomber dans une de ces deux catégories.
Et puis on a été piégés les uns et les autres avec les processus de paix.
Voilà, alors, soit on est dans une espèce d'objectivisme, et on l'a cru, beaucoup de mes amis proches, c'est un processus qu'on ne peut pas arrêter. On l'a cru pour le communisme, on l'a cru pour le processus de paix, c'est quelque chose comme s'il y avait une espèce de machine qui avance et que rien n'arrête. Je pense que on a appris, je crois que beaucoup d'entre nous ont finalement appris, que l'histoire, ce n'est pas des processus qui marchent tout seuls. C'est des choix politiques, c'est des choix qui sont en fonction d'intérêts, qui sont en fonction de rapports de force, et ces rapports de force changent. Aujourd'hui, le rapport de force dans notre région n'est pas favorable à une issue positive, disons, à une sortie de crise dans le bon sens. On peut toujours sortir de la crise, mais on peut sortir par la porte arrière ou par la catastrophe. Les plus intelligents parmi les socialistes du 19e et du 20e siècle ne disaient pas le socialisme est inévitable, ils disaient le socialisme ou barbarie. On a toujours des options. C'est pas la marche garantie vers le soleil radieux, c'est pas comme ça. C'est une possibilité, mais si par contre on loupe cette possibilité, alors on aura Hitler. Et on l'a eu. Et je dirais que le processus de sort à mes yeux, ou plutôt les rapports de force qui existaient dans les années 80 et 90 et qui se renforçaient dans le bon sens, laissaient envisager un arrêt de la politique de guerre, de la politique de colonisation et l'ouverture d'une nouvelle période qui ne commencerait pas, et ça c'était peut-être un des grands problèmes, par la réconciliation, mais qui pourrait peut-être se terminer un jour par la réconciliation. C'était un problème, il y a une chronique qui est consacrée à ça, on a un problème en Israël, un problème mental. Certains psychosociologues israéliens l'accrochent à l'histoire juive, j'en sais rien. À quoi c'est lié? Est-ce que c'est lié au... à la mauvaise qualité de l'alcool israélien, est-ce que c'est lié au Hamas, est-ce que c'est lié au soleil Mais le fait est qu'on a les séquences à l'envers. Si tu veux qu'on fasse la paix, et c'est vrai même dans les rapports, dans le voisinage, Il faut d'abord que tu me garantisses que tu m'aimes. Alors, si tu m'aimes, si je sais que tu m'aimes, alors je suis prêt à envisager, à négocier avec toi un problème de parking ou je ne sais quoi. Et alors, j'arrête de me taper dessus. Toute la logique de l'histoire moderne nous dit qu'il faut aller à l'envers. On arrête d'avoir se taper dessus, on fait un armistice, un cessez-le-feu, on ne sait pas qui veut. Qu'est-ce qu'elle va en sortir, mais d'abord on arrête de se cogner. Puis après on se met autour de la table, on essaie de voir si on trouve un compromis acceptable. On a un compromis plus ou moins acceptable, et peut-être à terme, il y aura une réconciliation, peut-être l'amour, qui sait. Mais nous, c'est à l'envers. Et c'est une demande qui vient du cœur de la société. Comment est-ce qu'on peut faire avec la paix avec eux, ils ne nous aiment pas? C'est sûr qu'ils ne vous aiment pas, si elle est bien, on ne s'aime pas. S'il y a le colonialisme, s'il y a l'occupation, on ne s'aime pas. Mais ce besoin d'amour, est, qui est, je dirais presque sympathique, il y a, qui, je sais pas, il y a sûrement des psychologues là qui pourraient traiter cette question beaucoup mieux que moi, et très caractéristique d'une mentalité en Israël. Je répète, c'est vrai pour les grands conflits comme pour les petits conflits locaux. Alors, on n'en est pas. Le processus de Sceaux permettait d'identifier ensemble ce qu'il fallait résoudre et un calendrier. Et c'était très important, le calendrier. Mais un calendrier qui malheureusement n'a pas été contraignant. Et dès lors que le calendrier n'était pas contraignant, et que le rapport de force était tellement inégal, faire traîner les choses, c'était faire sauter les prochaines bombes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que pire que l'oppression est la déception. Pire que de s'attraper un coup de poing dans la figure, je dirais c'est fair play, on se bagarre, on donne des coups, on attrape des coups. C'est quand tu as donné la main et tu t'attrapes une gifle. Ou bien, on passe à côté, on n'a pas vu. Et ça, c'est ce qui se trouve derrière le phénomène des attentats suicides ou pas suicides, qu'on a connu après le processus, pendant son appelé processus.
Avec votre accord, Jean-Claude et Michel, je donne la parole à la salle.
Oui, mais il a juste oublié, j'aimerais qu'il dise un petit mot sur les anarchistes contre le mur et sur les soldats là, qui refusent, et après je donnerai la parole, il y a déjà un premier intervenant.
Voilà. Alors, de façon générale, lorsque tu dis anarchistes contre le mur, ou les soldats, je ne parle pas en fait de la nouvelle génération militante. Et c'est d'abord un phénomène générationnel. Sur lequel j'aimerais parler, et j'en ai pas mal parlé dans les chroniques, j'aimerais en parler ici des heures, parce que c'est ce qui me fait rêver. Parce que c'est ce qui me rend... ce qui, par exemple, alors au pire moment du massacre de Gaza, en janvier 2009, m'a redonné espoir, m'a pas fait sombrer dans le désespoir, ou m'a vite sorti du désespoir dans lequel j'étais en train de sombrer. C'est la génération de mes enfants, c'est ceux qui manifestent contre le mur, anarchistes contre le mur, si on veut, ceux qui manifestent à Cherchevard, à Jérusalem, à Sidoine, ceux qui sont impliqués aussi dans des combats pour les sans-papiers, donc ce n'est pas simplement pour les sans-palestiniens, qui vraiment se bougent les fesses pour protéger, cacher, sensibiliser l'opinion sur des phénomènes de société et pas simplement sur le conflit israélo-palestinien. Cette jeunesse, elle me fait rêver. Elle me fait espérer. Elle me fait espérer, c'est une jeunesse dont j'apprends énormément. Parce qu'elle n'a pas du tout les mêmes trajectoires et les mêmes modalités de politisation qu'avait eu ma génération. Mais ça, c'est un phénomène que vous devez connaître en France, ici en Alsace, tout autant que chez nous. C'est la jeunesse, disons, des grands, la génération de Seattle, si on veut, de Gênes, de Strasbourg, justement, des endroits, cette génération qui, après deux décennies ou une décennie et demie de vie, dans laquelle nous n'avons pas transmis, où il n'y avait pas cette continuité qui nous a permis à nous d'être des militants parce qu'on s'appuyait sur les souvenirs de la résistance, de nos parents, de nos exemples de la résistance, de la, du Front populaire, de la Commune de Paris, de la Révolution française. On était dans une espèce d'histoire et une continuité, cette génération. Nous, on n'a pas fait notre travail, on a tenté la transmission, elle y est arrivée tout seul, par ses propres moyens. Certains les méprisent pour ça. Enfin, ils n'ont jamais lu Marx, ils ne savent pas qui c'est Franz Fanon, sionisme, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Moi-même, j'ai été interpellé par justement ces jeunes au début des anarchistes contre le mur, avant qu'ils s'appellent même anarchistes contre le mur, un groupe qui vient très timide, les cheveux longs, etc., qui dit « Michel, ça te dérange de nous faire une formation politique ?» Je dis « Non, avec joie. » Sur quoi ? Ils disent tout le monde dit deuxième intifada, mais c'était quoi la première ? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune histoire, même une histoire récente. Ou un autre exemple, je terminerai sur une note comique. Nous organisions une manifestation, le mouvement anti-occupation, le mouvement anticolonial, un rassemblement contre une nouvelle route de contournement. Ces routes, justement, de colons, qui sont construites sur des terres palestiniennes confisquées pour permettre aux colons un accès sécurisé et rapide sans passer par les villages, les villes et les villages palestiniens. C'était à l'époque de Rabi. Et donc il y a eu le 0 dans les 60, on a été mobilisés, parce que, non pas parce qu'on est contre cette route, mais parce que ça signifie expropriation, ça signifie mur, ça signifie plein de choses. Et tout d'un coup, on voit un groupe de une petite douzaine de jeunes. Avec une grande affiche, je crois que c'est dans une des chroniques, avec une grande affiche, non à la route, oui au train. Eux, ils étaient contre la route pour des raisons écologiques et autres, contre la voiture. Ils ont compris qu'on était contre la route, donc ils sont avec nous et oui au train.
Bon, alors voilà, il y a déjà deux bras qui se levaient. Alfred, vas-y.
Donc, avant de lire votre livre, M. Varchavski, je suis mis à la stratégie du choc.